Théma, le magazine pour faire le tour en une heure de l'actualité.
Théma. Bonjour et bienvenue dans l'émission Théma consacrée aujourd'hui aux 100 ans du lycée Notre-Dame de Mende. Nous sommes la classe de BTS Communication première année. Et à propos du lycée, nous sommes là pour échanger sur ce siècle d'éducation. En cette occasion, divers thèmes seront abordés. L'histoire du lycée, l'international, notamment avec Erasmus+, les options, notamment avec le sport. Avec nous, aujourd'hui, nous retrouvons Jean-Marie Bonhomme, le directeur du lycée. Bonjour.
Bonjour.
Sylvain Magdinier, enseignant en français ainsi qu'en culture de la communication, il a également écrit le livre « 100 ans au lycée Notre-Dame ». Bonjour.
Bonjour.
Avec nous aussi, nous avons Estelle Sénéchal, enseignante d'histoire géo et de français, qui a participé aux recherches pour l'écriture du livre. Bonjour.
Bonjour.
Et enfin, Adrien Donadieu, enseignant d'histoire qui a également participé aux recherches du livre. Il est actuellement en cours, il arrivera plus tard. Alexandra, bonjour. Prête à dévoiler les secrets de notre directeur ?
Bonjour Lenny, et bonjour à toutes et à tous. Alors en effet, je vais poser les premières questions, et justement, j'aimerais commencer par vous Jean-Marie Bonhomme. Alors la première question, depuis combien de temps êtes-vous directeur au lycée Notre-Dame ?
Alors je suis directeur au lycée Notre-Dame depuis 2017.
Très bien. J'ai cru entendre que vous étiez enseignant avant. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir directeur ?
Alors oui, j'étais enseignant. Alors j'étais élève dans le lycée, et j'ai été enseignant d'histoire-géographie pendant 13 ans dans le lycée. Qu'est-ce qui m'a poussé à devenir directeur ? En fait, on ne fait pas directeur d'un établissement privé catholique par carrière. En fait, ça s'est passé de la manière suivante. Le chef d'établissement de l'époque m'a contacté, m'a convoqué, m'a demandé si j'étais éventuellement intéressé pour faire une formation chef d'établissement suite à une demande de l'évêque qui souhaitait constituer un vivier de personnes susceptibles de prendre des directions au sein de l'établissement. Donc j'ai dit pourquoi pas. Donc je suis parti en formation chez l'établissement, ça dure 3 ans et demi. Je suis parti en formation pendant 3 ans et demi. Et donc voilà, mais je n'avais pas de plan de carrière. Et puis donc j'ai fini ma formation, j'ai continué à enseigner pendant une année. Et ensuite on m'a nommé chef d'établissement sur l'ensemble scolaire Saint-Pierre-Saint-Paul en 2011 avant de revenir ici en 2017.
D'accord. En tant que directeur, est-ce qu'il y a peut-être des valeurs ou un esprit important à prôner au sein de l'établissement ?
Je ne sais pas s'il y a des valeurs ou un esprit important. Dans un établissement privé catholique, le caractère catholique est important, mais oui. Il faut avoir beaucoup d'humilité parce qu'on travaille avec de l'humain. Et ça, c'est important. Il faut accepter de faire travailler avec l'humain. Il faut accepter de ne pas être parfait. Et par contre, on travaille de l'humain, on travaille avec des jeunes qui sont des adultes en devenir et qui ont un sens aigu de l'injustice et qui ont envie de s'engager. Donc notre rôle, c'est essayer d'être des facilitateurs, de les accompagner, de les écouter. Et voilà.
Est-ce que vous avez peut-être une anecdote à partager avec nous, peut-être d'un moment marquant en tant que directeur ?
C'est compliqué. Des anecdotes, il y en a plein. On a envie tous les jours aux anecdotes, en fait. Alors, vous dire comme anecdote... en ce moment, l'établissement, on a deux équipes qui sont engagées dans les championnats de France de handball, Uxelles, qui se déroulent sur l'établissement. Et pour la petite anecdote, je crois que ça va être la première ou deuxième année que j'étais chez l'établissement ici. Et il se trouve que cette année-là, l'équipe de hand du lycée Notre-Dame Garçon a été championne de France. Et donc ça se passait à Mende. Et donc, je suis allé avec tous les élèves encourager l'équipe, remettre également les trophées. Et puis, les élèves ont eu l'idée de m'attraper, de me mettre sous la douche. Alors, j'ai dit, ils n'en seront pas capables. Mais en fait, ils l'ont fait. Voilà, donc je suis sorti, j'étais bien trempé, mais c'était un moment très savoureux parce qu'on a passé un bon moment, voilà. Et voilà, puis les jeunes m'ont vu aussi sous un autre jour et c'était intéressant, voilà.
On va continuer du coup sur la longévité des anecdotes. Est-ce qu'il y a peut-être un projet du lycée que les élèves ont fait qui peut être aussi marquant pour vous ?
Alors, c'est difficile à répondre à cette question. Des projets, il y en a plein. Les élèves, ils sont source d'inspiration. Des fois, ce n'est pas forcément eux qui vont avoir les projets, mais ils nous font remonter des choses et ça va revenir à l'équipe de les mettre en œuvre. La semaine dernière, j'ai des élèves, des délégués élèves de seconde générale qui sont venus me voir pour demander une sortie scolaire en fin d'année, un voyage scolaire. Et je dois avouer que j'ai été bluffé parce qu'ils avaient tout prévu, tout était super bien ficelé. Ils n'avaient pas eu recours à l'IA pour le faire. Donc voilà. Mais du coup, ça en dit long aussi parce que ça veut dire aussi que les jeunes, ils se sentent bien dans l'établissement. Ils voient qu'on leur fait confiance. Alors, je ne dis pas que le projet va aboutir. Il faut maintenant, parce que derrière, il faut qu'il y ait des enseignants qui accompagnent, qui encadrent. Il y a plein d'autres paramètres à prendre en considération. Mais en tous les cas, ça prouve que les jeunes sont en confiance, qu'ils n'hésitent pas à venir nous voir. Et ça traduit aussi le fait que l'établissement est un établissement familial et convivial. Et ça on le vit. Alors, des anecdotes, j'aurais pu citer aussi les anecdotes d'anciens élèves, ce qui est toujours plaisant. C'est d'avoir le retour des anciens élèves. Et puis, parfois des élèves dont on se souvient parce que la scolarité, ils ont peut-être été un peu difficiles, etc. Mais souvent, ils reviennent et ils viennent nous dire merci. Et ça, on a fait notre job, quoi. On est super contents, quoi. Et finalement, rien de nouveau, ces échanges-là, quoi. Et on va le voir, il y a plein d'anciens élèves qui vont venir à la soirée du 11 avril, notamment. Et je sais déjà, parce que les chances qu'on a pu avoir, etc., ils sont ravis de pouvoir retrouver leur ancien professeur, quoi. Voilà.
Alors, vous parliez d'échanges. Le lycée a dernièrement eu 100 ans. 100 ans, c'est un bel âge. Ça va pas trop mal au dos ?
Non, moi, pour l'instant, ça va pas trop mal au dos. Un peu stressé quand même, je dois l'avouer, parce que c'est pas rien de fêter 100 ans et de penser à toutes les générations de personnes qui sont passées à l'établissement. Tout ce qu'on doit aux personnes qui ont précédé, cet héritage. Quand je parlais d'établissement familial, vous seriez surpris de voir le nombre d'enseignants qui ont été élèves dans l'établissement. Et qui continuent et qui aujourd'hui travaillent dans l'établissement. Donc c'est un dit long, ils ont été élèves, ils sont revenus, c'est un dit long sur l'attachement à l'établissement. On parlait de valeurs tout à l'heure, ces valeurs, elles se véhiculent naturellement, en fait, parce que ces personnes-là, on n'a pas besoin de leur présenter un projet, elles le vivent, en fait, elles le connaissent. Et voilà, et comme toute affaire familiale, comme toute affaire de famille, y a ses bons côtés, il y a ses mauvais côtés, mais en fait, les gens sont très attachés à l'établissement. Et ça permet d'aller loin. Et en tant que chef d'établissement, moi, je peux dire quand même que j'ai la chance. Souvent, j'ai la chance d'être amené à dire souvent oui à des projets qui sont proposés, quoi. Et ça, c'est pas rien, parce que ça veut dire qu'il y a des projets sérieux. Et puis derrière, il y a des hommes et des femmes qui sont sérieux pour mener tout ça, quoi.
Quand même 100 ans, ça se fête quand même. Est-ce que vous avez prévu quelque chose pour fêter cet événement ?
Ah oui, bien sûr, ça se fête. Alors, ça se fête. Alors, la première chose, il va y avoir un livre qui sort, qui va arriver la semaine prochaine. Il est déjà arrivé à l'établissement, mais on a réservé quand même un peu la primeur au personnel de l'établissement. Et à partir de mercredi prochain, le livre sera en vente et certains ont déjà commencé. À l'acheter. Le samedi 11 avril, donc on fait une petite inauguration du perron de l'établissement qui a été fait cette année et qui, les travaux ne sont pas encore finis, il y a plein de choses à venir, mais voilà, c'est l'occasion aussi de fêter les retrouvailles et donc il y a une soirée avec plein de surprises qui est prévue le 11 avril. Et puis il y a d'autres choses qui vont arriver. 100 ans sur l'établissement, l'idée, ce n'est pas uniquement d'être dans la nostalgie. et dans le passé, mais c'est aussi surtout de se projeter vers l'avenir. Et ces 100 ans, ils marquent aussi, je l'espère en tous les cas, le point de départ pour le nouveau visage du lycée Notre-Dame dans les années à venir. Et donc il y a plein de projets, on est en train de réécrire le projet éducatif de l'établissement, et il y a plein de projets d'investissement qui sont également en cours notamment.
Merci Monsieur Bonhomme pour votre temps. Cette histoire de livre est effectivement très intéressante, et je suis sûr qu'Alexandra a des questions pour les concepteurs du livre.
Donc je vais démarrer avec Estelle et Adrien. Bonjour.
Bonjour.
Donc pour commencer, la première question, depuis combien de temps avez-vous eu cette idée de livre, à vous et aussi Monsieur Sylvain du coup?
Alors d'abord, c'est peut-être Benoît qui a lancé, Monsieur Orlac, qui a lancé l'idée de rédiger un livre pour les 100 ans. Il a trouvé l'écrivain, Sylvain. Et ensuite, moi je pense qu'avec Adrien, comme mon prof d'histoire, se jeter dans les archives pour voir un peu ce qu'il en était bien avant nous, ça a été quelque chose de naturel. Oui. Et ça fait une grosse année quand même. Bon, on y travaille un peu plus.
Oui, ça fait même plusieurs années. Je crois que ça fait presque 3 années scolaires qu'on le travaille. Et c'est vrai qu'au début, on était un petit comité. Et ça paraissait, irréalisable, tant le projet semblait important. Mais à force de discussion, à force de partage d'expériences et d'anecdotes, ça nous a semblé nécessaire. Et Sylvain a su manier les mots pour nous faire un beau livre.
Merci. J'ai regardé tout à l'heure les notes, l'historique un peu de tout le travail qui a été fait. Et la première réunion qui a réuni le comité de rédaction remonte à février 2023. Donc en fait, depuis février 2023, on travaille sur ce livre-là avec un rythme un peu irrégulier. Parce que chacun est pris par l'emploi du temps de son métier. Mais voilà, depuis 2023.
Depuis combien de temps de recherche vous a-t-il fallu en tout?
Moi, je dirais une grosse année. Moi, j'étais chargée des archives diocésaines, et Adrien, les archives départementales et régionales et départementales. Et oui, le temps d'aller fouiller, chercher, ne pas trouver, retourner, ne pas trouver, ça prend beaucoup de temps. Et ensuite, on a fait remonter à Sylvain. Nous, on a cherché le matériau historique et Sylvain en a pris possession pour rédiger le livre.
Oui, c'est vrai, ce qui est bien avec Estelle et même Benoît, c'est qu'on s'est très bien réparti les tâches. Benoît en travaillant aux archives municipales, Estelle aux archives diocésaines, moi un petit peu aux archives départementales. On a su un peu glaner des informations, trouver des sources, se les partager et essayer de construire à petits pas cette histoire du petit séminaire puis du lycée Notre-Dame.
Sachant qu'on ne trouve pas toujours ce qu'on cherche.
Oui, et parfois ne pas trouver, ça dit quelque chose.
Ça dit quelque chose.
Et dans les informations que vous avez cherchées, est-ce qu'il y a des informations que vous avez trouvées mais que vous n'avez pas pu communiquer? Par exemple, par rapport à des contextes de loi, comme par exemple le droit à l'image ou par là, toutes les lois en général.
Alors moi, de mon côté, pas du tout. Moi, je suis restée un peu frustrée de ne pas trouver ce que je cherchais. Donc je n'ai pas eu ce souci de censure ou de quoi que ce soit.
Non, de ma part, moi non plus. Peut-être qu'il y a eu quelques soucis de droit d'auteur, mais même, je pense qu'on a réussi à trouver un bon compromis, de bonnes solutions. Moi, j'ai eu le même problème qu'Estelle. Il y a eu beaucoup de silence dans certaines sources que j'ai pu consulter, notamment aux archives de la Lozère Nouvelle. Par exemple, en 1926, aux archives de la Lozère Nouvelle, il n'y a pas un mot sur l'inauguration de ce nouveau petit séminaire. Donc, ça prête à beaucoup de discussions. Oui.
Pareil, dans les archives diocésaines, il n'y a rien sur l'inauguration. C'est lacunaire.
D'accord, très silencieux du coup.
Oui. Oui.
Très bien.
Il y a un élément aussi qui, pour répondre à la question, ce qui a parfois posé problème, c'est la quantité d'informations qui ont été recueillies. Parce qu'en fait, en presque 2 ans de travail, on a accumulé énormément d'informations parce que Estelle, Adrien et Benoît ont très bien fait leur travail. Donc on a une mine d'informations et le livre, il a forcément un volume qu'il fallait contenir. On est à un peu plus de 200 pages, on ne pouvait pas trop excéder ça. Et donc après, il y a un travail qui consiste à dire ben, qu'est-ce qu'on met et qu'est-ce qu'on ne met pas. Et effectivement, il y a des choses qu'on n'a pas pu mettre, donc il faudra exploiter d'une autre manière, peut-être sur le site du lycée. Ou, voilà, il a fallu faire des choix, donc c'est parfois un peu frustrant.
Et pour revenir sur les informations que vous avez trouvées, est-ce qu'il y a peut-être des choses étonnantes que vous avez découvertes dans vos recherches ?
On ne peut pas tout vous dire, il faut acheter le livre. Étonnante, moi, ce qui est étonnant, c'est le manque d'informations qui nous semblait évident à trouver. C'est-à-dire que moi, j'y allais vraiment confiante à 100% pour certaines informations que je n'ai mais pas du tout trouvées. L'exemple, c'est que toutes les vierges de la ville de Mende sont répertoriées. Sauf celle du lycée Notre-Dame. Elle n'apparaît nulle part.
Moi, par exemple, j'ai travaillé sur le premier supérieur du petit séminaire, Jean-Baptiste Delon. Et je dois vous avouer, j'ai été assez surpris de ne pas trouver grand-chose sur son activité au sein du petit séminaire. Par contre, j'ai appris que c'était un excellent baryton. Je savais qu'il animait des chorales. Je savais qu'il a fait une licence de lettres et que ça a été d'ailleurs le premier prêtre lozérien à avoir obtenu une licence de lettres. Mais après, sur sa vie au sein de l'établissement, c'était assez pauvre, oui.
Et Sylvain, comment vous avez exploité ces informations dans l'écriture de votre livre ?
C'était pas toujours facile, donc il y avait une grande quantité d'informations et en fait ce qu'il a fallu faire, moi je suis pas historien, contrairement à mes collègues qui ont une formation d'historien, moi je sais pas faire ça, donc mon travail c'était plutôt d'arriver à trouver le fil rouge pour mettre de la narration dans tout ça, c'est-à-dire que on avait des éléments qui étaient des éléments factuels, j'avais des dates, j'avais des chiffres. Et tout ça, il fallait le mettre en mots pour que ça raconte une histoire et que ça puisse intéresser un peu tout le monde. C'est-à-dire le lecteur qui est plutôt passionné par l'histoire mendoise et qui va venir chercher de l'information là-dedans. L'ancien élève, l'ancien professeur, le professeur actuel ou l'élève actuel. Le lozérien, tout simplement, qui n'a pas forcément de lien avec le lycée Notre-Dame, mais qui peut-être va s'intéresser à ce sujet-là. Et pour ça, il fallait mettre en mots en essayant de rendre cette matière-là cohérente et intéressante. Voilà.
Moi, je trouve que Sylvain a admirablement réussi quelque chose, c'est mettre des mots sur des photographies que l'on avait du petit séminaire. On a des photographies du petit séminaire en construction ou achevé ou des groupes d'élèves et associer l'image avec les mots, ça a été une réussite, je trouve, oui.
Et sur les informations que vous avez aussi recueillies, il y avait peut-être des petites informations banales, comme par exemple la vie quotidienne des élèves. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris sur leur manière de vie, en fait ? Par là, j'entends les punitions, les uniformes.
Je veux bien répondre à cette question-là parce que ce qui est assez touchant, c'est que quand on parle de 100 ans, on a l'impression que c'est très loin, ça nous paraît énorme 100 ans. Et en fait, quand on voit la vie des élèves il y a 100 ans, alors évidemment, elle a changé d'un point de vue matériel, l'institution n'est plus du tout la même, mais le comportement des élèves en lui-même, on retrouve exactement les mêmes choses. Et donc, on retrouve les anciens billets de colle, par exemple, que rédigeaient les professeurs. Et il y en a un qui est très beau, sur lequel il y a marqué « Cherche la bagarre et la trouve au réfectoire ». Et l'élève avait été collé pour cette raison-là. En fait, on se rend compte qu'il y a plein d'anecdotes qui relient les élèves d'avant aux élèves d'aujourd'hui. Ce n'était pas si différent dans les rêves que les élèves avaient en tête, leur manière de se comporter, etc.
Parce que du coup, à l'époque, le lycée Notre-Dame, c'est un lycée mixte ou c'est un lycée qui était au niveau des sexes très séparé ?
Alors c'était d'abord un petit séminaire, mais peut-être que mes collègues répondraient mieux que moi même à cette question-là.
Donc pour tout vous dire, en fait, le lycée Notre-Dame, le petit séminaire, c'était le lycée Chaptal. Donc c'est là où les futurs prêtres étaient formés. Donc il n'y avait que des ecclésiastiques au départ. Enfin, tout le monde, les garçons étaient accueillis, mais dans le but d'en faire des ecclésiastiques. Et en 1905, lors de la séparation de l'Église et de l'État, l'État reprend possession du lycée Chaptal, enfin, actuel lycée Chaptal, et du coup, le lycée Notre-Dame, l'institution, se retrouve SDF, si vous voulez. Donc voilà l'histoire, en fait, le départ de la construction du lycée Notre-Dame. Et au départ, c'est pour former des prêtres.
D'accord.
Et l'arrivée des filles n'arrive que dans les années 60. Alors, je n'ai pas la date, je me sens que c'est 64 ou 66. Exactement.
Il est vrai qu'à l'époque, le lycée séparait les hommes et les femmes. Il n'y avait aucune mixité. Je vous laisse donc avec Iliam, qui a une chronique à ce sujet.
Je vous propose de revenir sur un sujet qui nous paraît évident aujourd'hui, mais qui ne l'a toujours pas été, la mixité à l'école. Il y a 100 ans, au sein de l'établissement, les classes étaient uniquement réservées aux garçons, et ce, jusqu'en 1966. Les filles et les garçons sont séparés au sein même des établissements. Le baccalauréat, créé en 1808 sous Napoléon Ier, n'est accessible aux femmes qu'en 1919. Puis en 1924, les programmes deviennent identiques pour les deux sexes. Mais attention, l'égalité des programmes ne veut pas dire mixité, puisque les élèves n'étudient toujours pas ensemble. La coéducation, c'est-à-dire le fait d'enseigner ensemble les filles et les garçons, est longtemps combattue. Elle est même officiellement condamnée en 1929 par le pape Pie XI, qui la considère comme contraire à la morale. Cette position a fort impact dans les pays à tradition catholique, comme la France. Il faut attendre le milieu du XXe siècle pour que les mentalités changent. À partir des années 60, les nouveaux lycées français sont obligatoirement mixtes. Les collèges suivent quelques années après, puis en 1975, les décrets Abi rendent la mixité obligatoire dans tout le système éducatif. Les filles et les garçons partagent donc enfin les mêmes salles de classe. Mais cette mixité ne veut pas dire égalité tout de suite. Dans les classes, les garçons prennent souvent plus de place, parlent davantage et s'imposent plus facilement. Certaines matières restent séparées pendant longtemps, notamment les cours d'éducation physique, qui ne deviennent réellement mixtes que dans les années 90. Aujourd'hui, la mixité fait partie du quotidien scolaire. Mais elle n'a pas fait disparaître la surreprésentation des garçons dans les études supérieures, notamment les filières scientifiques et d'ingénierie, ni les discriminations liées au sexe. En 100 ans, on est donc passé d'une école complètement séparée à une école mixte et ouverte, qui reflète l'évolution de la société. Une évolution que le lycée Notre-Dame de Mende a traversée et incarnée au fil de son histoire. Mais cette évolution reste encore d'actualité, car au cours de son histoire, le lycée Notre-Dame n'a pas encore accueilli une femme à la tête de son établissement.
Est-ce que vous avez envie de réagir sur cette chronique ?
Les garçons prennent toujours trop de place.
Ok. Alexandra, est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Oui, il y a encore une ou deux questions sur lesquelles je voudrais terminer pour clore ces questions. Alors, Estelle, vous parliez d'archives diocésaines. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Alors, c'est les archives qui collectent tout ce qui a trait à l'Église. Donc, je tiens quand même à remercier M. Laurent, Alain Laurent, qui m'a ouvert ces archives diocésaines et qui m'a aidée dans mes recherches. Donc, elles se situent à l'ancien grand séminaire, c'est rue Monseigneur de Ligonnès. Et là, vous retrouverez tous les documents qui sont inhérents à l'Église lausérienne, mandoise et autour. Donc moi, j'ai été chargée de fouiller dans ces archives-là.
Est-ce que vous avez utilisé d'autres ressources, à part les ressources diocésaines et départementales ?
Pour ma part, moi, j'ai fait les archives départementales, mais en appui d'Adrien. Et après, on est quand même allé collecter des témoignages d'anciens prêtres qui avaient enseigné, anciens directeurs, anciens élèves. On s'est pas appuyé que sur des archives.
On parlait tout à l'heure de Benoît Orlac qui a supervisé là, le comité de rédaction qu'on a constitué. Et Monsieur Orlac notamment, pas tout seul, mais il en a fait beaucoup à sillonner un peu la Lozère à la rencontre d'anciens élèves, d'anciens professeurs, pour qu'il y ait dans ce livre un matériau qui soit un matériau humain aussi, parce que ça parle d'abord de ça, ça parle de destin humain. Et il y a une autre source aussi, des sources que je voudrais mentionner, c'est la presse nationale. Parce qu'on a eu à cœur de relier l'histoire du lycée à l'histoire nationale. Ça n'aurait pas été intéressant de faire un livre du lycée Notre-Dame sur le lycée Notre-Dame, c'est-à-dire quelque chose qui soit un peu nombriliste. Ce qu'on a voulu faire, c'est raconter l'histoire du lycée Notre-Dame qui s'imbriquait dans une histoire nationale ou internationales. Comment, par exemple, le lycée Notre-Dame traverse l'année 1968 avec les événements étudiants. Comment il est impacté par tous les événements qui frappent l'actualité tous les jours. L'histoire de la cigarette aussi, par exemple, au lycée Notre-Dame. Comment elle a été d'abord utilisée, puis comment on l'a abandonnée. Voilà. Donc ça raconte, à travers le lycée Notre-Dame, ça raconte une histoire qui est bien plus large.
Après tous ces échanges, il est temps de faire une petite pause musicale après laquelle nous reprendrons. A tout de suite!
On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz, and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. My skin began to turn red. After 3 days in the desert fun, I was looking at a riverbed. And the story it told of a river that flowed made me sad to think it was dead. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. Is a desert with its life underground and the perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of ground, but the humans will give no love. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la.
Après tous ces échanges, non. Nous sommes de retour en espérant que vous êtes toujours là. C'est le cas de ma camarade, Lilou. Elle a aussi des questions sur ce fameux livre. Je lui laisse la parole. Bonjour Lilou.
Bonjour Lénie. Commençons sans plus tarder. Monsieur Donadieu, notre lycée était un petit séminaire avant. Comment est-on passé d'un petit séminaire à un lycée polyvalent?
Alors là, il faut en peu de temps que je traite 100 ans d'histoire. Je pense qu'il faut réfléchir par étapes. On a parlé de la séparation de l'Église et de l'État qui a amené le petit séminaire, donc l'actuel lycée Chaptal, à venir s'installer ici. Et je pense que l'idée a germé en 1919, lorsque le chanoine Jean-Baptiste Delon revient de la Première Guerre mondiale, revient du front, et a deux idées en tête. Terminer sa thèse d'historien sur la Révolution française en Lozère et donner un nouveau bâtiment à ce petit séminaire. Et donc, l'idée germe et le bâtiment sort en 1926. Puis, je pense que si on avance dans le temps, la Seconde Guerre mondiale a joué un rôle absolument majeur et déterminant, puisque ça a été un lieu dans lequel l'armée allemande a vécu pendant une grande partie du conflit. Et peut-être qu'on aura l'occasion de reparler de cet épisode-là. Ensuite, les années 60 ont, à mon sens, été extrêmement importantes par l'arrivée d'enseignants laïcs. Il me semble que c'est dans les années 60-64, et notamment des femmes enseignantes, l'arrivée des filles, la mixité, et la polyvalence s'est alors fait progressivement avec la construction d'un nouveau bâtiment en 1959, puis l'apparition de filières comme les mathématiques, la philosophie, puis les matières technologiques, et enfin l'ouverture d'un lycée professionnel au tout début du XXIe siècle. Et donc je pense que cette polyvalence, elle ne peut s'étudier que pas à pas, que progressivement. Voilà.
Ok, je vois, merci. Et du coup, pourquoi un livre et pas un autre format comme un documentaire ou un film?
Le livre, c'est un objet qu'on garde en fait, c'est un objet de mémoire, le livre qui est pas périssable. Déjà parce qu'il ne repose pas sur une technologie qui serait périssable, l'objet on va le garder. En fait, on avait vraiment envie de faire un objet qui allait rester dans les bibliothèques et qui allait se transmettre. Et puis ça rejoint le livre dans un lycée, ça a du sens aussi parce que c'est un support d'éducation aussi, le livre. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nous amenaient vers ce support-là. Cela dit, comme je le disais tout à l'heure, le livre, il a un volume qui était limité, donc on a des informations qu'on n'a pas pu traiter, et donc il faut se poser la question maintenant de quel support pourrait compléter le livre. Et par exemple, le site internet, ou voilà, bon, il faut qu'on voit comment on peut utiliser l'information qu'on a accumulée.
Ok. Avez-vous réussi à réellement reconstituer ces 100 dernières années? On n'a aucune de manquantes?
Ah si, il y a forcément des années manquantes ou des informations dans les années qui sont manquantes. Alors, Adrien mentionnait la guerre. C'est vrai que dans les archives diocésaines, il y a par exemple les années 42, 43 ou 44 où les archives ont disparu, par exemple.
D'accord. Et est-ce qu'il y a des personnalités qui ont côtoyé notre lycée?
Ils l'ont fréquenté?
Oui.
Il y a des grandes figures. Moi qui ai travaillé sur les premières années de ce petit séminaire avec Estelle pour la partie historique, on peut penser à l'évêque de Mende, René Boudon, qui a été une figure importante de la vie religieuse en Lozère. L'historien Félix Buffière également, en 1926, il était présent. Voilà pour ce qui est des marques, des individus forts de ces premières années, de ces premières décennies, par exemple.
D'accord. Est-ce qu'il y a des anecdotes qui vous ont particulièrement marqué? Peut-être commençons avec vous, Madame Sénéchal.
Moi, l'anecdote, c'est en fait aucune information, hein, vraiment, moi j'y tiens, hein, sur la Vierge qui trône sur le parvis du lycée. Et en fait, il n'y a aucune information sur cette statue, ni son origine, ni rien. On ne sait pas comment elle est arrivée jusque-là.
D'accord.
Donc c'est un peu ma frustration de mes recherches. Voilà. Et les anecdotes, c'est quand on a été, alors je dis on, l'expropriation du petit séminaire, donc du lycée Chaptal, c'est quelque chose qui a fait beaucoup de bruit en Lozère, mais qui est remonté ici jusqu'à Paris, jusqu'au ministère, et où on voulait vraiment régler l'affaire lozérienne et l'affaire mandoise en particulier. Donc c'est ce que disait Sylvain, la grande histoire vient entrer en collision avec la petite histoire mandoise.
D'accord. Et vous, messieurs ?
Alors, des anecdotes croustillantes, peut-être pas. Ceci dit, en travaillant sur la Seconde Guerre mondiale pour le petit séminaire, je suis allé aux archives départementales et je cherchais des informations sur l'occupation des troupes allemandes. Donc, il y avait entre 400 et 2000 Allemands présents à Mende, donc ça faisait quand même beaucoup d'Allemands à loger, et notamment au petit séminaire. Et en travaillant là-dessus, j'ai découvert une série de documents cartographiés d'exercices de tir à balles réelles qui se faisaient juste derrière le petit séminaire, probablement peut-être même là où nous sommes assis actuellement.
Moi, j'ai eu un grand plaisir à retrouver les histoires de cancre d'antan. Et par exemple, un élève dans les années 30 qui avait piqué des petites pierres de carbure et qui les avait jetées discrètement dans les encriers pour les faire mousser et les faire déborder. Donc la classe avait été un peu inondée d'encre. Voilà, on retrouve ce genre d'anecdotes aussi dans les archives.
D'accord. Monsieur Magdigné, l'écriture de ce livre a-t-elle été difficile ?
Oui, ça a été difficile par certains aspects, ça a été un grand plaisir aussi et beaucoup d'honneur. Je suis honoré qu'on m'ait confié cette mission-là. Oui, il y avait des aspects difficiles dans cette mission, d'abord parce que ça demande du temps. Ensuite parce que comme je le disais tout à l'heure, il faut faire des choix, ça c'est difficile aussi, qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce qu'on ne raconte pas, et puis il y a la manière de dire, il faut toujours se demander est-ce que là le ton est le bon, est-ce qu'on raconte la chose de la bonne manière. Oui, de ce point de vue là ça a été parfois difficile, mais par contre passionnant, vraiment passionnant.
Est-ce que l'idée d'abandonner le projet, de jeter l'éponge, vous est-elle passée par la tête?
Non.
Non, jamais.
Jamais.
Non, non. Jamais. Okay. On ne savait pas si on irait jusqu'au bout, si on arriverait à... Voilà, maintenant qu'on a touché le livre, on sait comment c'est fait.
Le travail d'équipe faisait que c'était tout le temps stimulant, quoi.
D'accord. Et du coup, petite question qui pourrait jeter de l'huile sur feu. Y a eu-t-il des désaccords au cours de ce projet, entre vous ?
Entre nous trois, je ne pense pas, mais...
Non, c'est pas vraiment des désaccords, c'est par contre des divergences parfois de points de vue. Alors là, on parle de l'équipe du comité de rédaction, mais il faut mettre dans la boucle l'éditeur aussi, puisqu'il y a un éditeur, l'Ours de Granit, derrière tout ça. Et en fait, l'éditeur a parfois une vision du livre, les gens qui l'écrivent en ont une autre, et il faut trouver des compromis. En fait, c'est le chemin du compromis qui est parfois difficile à trouver. On y est arrivé. Voilà.
On n'a pas toujours été d'accord pour le choix d'une photo, par exemple.
Voilà.
Voilà. Et là, ça a beaucoup discuté, mais c'était jamais, c'était pas agressif. C'était non, moi je préfère celle-là, mais non, on met celle-là. Après, on est arrivé à s'entendre.
Et de façon générale, on a eu la chance d'avoir la confiance de notre direction et la confiance de l'éditeur aussi.
Ok. Ce livre possède à peu près combien de chapitres ?
Il y a trois grandes parties en fait dans ce livre-là. Ça a été aussi un travail avant de se lancer dans l'écriture. Il a fallu trouver une charpente, une ossature. Donc il est en trois grandes parties. La première partie est plutôt historique. Et ensuite, on va plutôt s'intéresser à ce qui constitue le fonctionnement du lycée, comment il fonctionne, ses rouages. Et puis ensuite, qu'est-ce ce qui fait son âme.
Et du coup, ce livre, c'est seulement un recueil d'informations où on y retrouve une trame, une histoire ?
J'espère qu'il y a une histoire. En tout cas, le projet, c'était vraiment ça. On a voulu y mettre une histoire. Ça n'aurait pas eu de sens de faire un livre qui ne soit qu'une accumulation d'informations, de faits. Donc, on y raconte des histoires et j'espère vraiment qu'on va d'abord y retrouver de l'humain.
D'accord. Encore une autre question pour vous, Monsieur Magdigné. Petite question du coup de communication. Quelle stratégie de communication avez-vous prévue pour ce livre?
C'est l'étudiante en communication qui parle au professeur de communication. J'ai beaucoup de chance parce que je ne me suis pas du tout chargé de cette partie-là. Moi, dans le livre, mon rôle, c'est vraiment limité à écrire. Et on a derrière des gens qui se sont davantage posé la question de la communication, d'autant que, comme je le disais tout à l'heure, il y a un éditeur aussi derrière. Donc c'est aussi la préoccupation de l'éditeur après de faire parler du livre. On a la chance d'avoir les réseaux sociaux aussi, l'information va circuler. Bon, la radio aujourd'hui aussi. Donc voilà, ça va se passer comme ça. Oui. Le bouche à oreille peut-être aussi beaucoup parmi les anciens élèves, je pense.
Ok, super. Et ce livre, où est-ce qu'il sera disponible?
Vous pouvez le commander en ligne déjà sur le site du lycée. Je pense qu'il y en aura dans les librairies mandoises et à Hyper-U, il me semble. Oui. Voilà, déjà, ça vous fait pas mal de points d'achat. Okay. On vous invite à aller l'acheter.
L'argent de ce livre, comment est-ce qu'il sera réutilisé pour le lycée?
Déjà pour financer le livre. Parce que éditer un livre, ça a un coût, hein, forcément. Et ensuite, je ne sais pas. Je ne sais même pas s'ils nous feront des bénéfices. Ce n'est pas le but hein, du livre, non. Je pense. Ce n'est pas le but de faire des bénéfices ou d'en tirer quelques profits. C'était plutôt, ce que disait Sylvain, avoir un bel objet pour fêter dignement ses 100 ans, quelque chose qu'on va garder, qu'on va feuilleter de temps en temps, qu'on va réouvrir.
Et la question de la rentabilité, là, on se l'est jamais vraiment posé. On tenait tous à ce que le travail qui soit fait soit un travail de qualité.
D'accord. Maintenant, parlons un peu d'avenir. Comment voyez-vous l'avenir de l'enseignement dans 100 ans?
Paraît-il que dans 5 ans, il va être totalement bouleversé.
Par l'IA, dans 100 ans.
Dans 100 ans.
La question est vaste parce que on fait un métier qui change très très vite et on s'en rend compte. Alors quel sera l'impact de la technologie aujourd'hui sur l'enseignement de demain? Je pense que celui qui a la réponse à cette question peut gagner beaucoup d'argent.
Puisqu'on parle d'avenir et d'éducation, pourquoi ne pas combiner les deux avec une chronique qu'a spécialement préparée Aurélie?
Effectivement, depuis 100 ans, l'école n'a cessé d'évoluer. Mais jamais les transformations n'ont été aussi rapides qu'aujourd'hui. L'arrivée du numérique a ouvert une nouvelle ère, une ère où l'éducation se réinvente en profondeur. Au début du XXIe siècle, les premiers outils digitaux faisaient timidement leur entrée dans les classes. 20 ans plus tard, ils sont devenus incontournables. Les manuels scolaires en papier ont laissé place à des plateformes éducatives en ligne. Les cours se font désormais sur ordinateur. Les devoirs se déposent sur des espaces numériques. Et les échanges entre enseignants et élèves passent par mail ou messagerie interne. Ce qui semblait futuriste il y a encore quelques années est devenu la norme. La crise du Covid a joué un rôle d'accélérateur. Du jour au lendemain, l'école a dû basculer en distanciel. Et cette expérience a montré qu'il était possible, et parfois même efficace, d'apprendre depuis chez soi. Depuis, les outils numériques ne sont plus seulement pratiques, ils sont devenus essentiels. Et puis, il y a l'intelligence artificielle. Elle occupe aujourd'hui une place immense dans le quotidien des élèves. Résumer un livre, expliquer une notion, résoudre un exercice complexe, l'IA est devenue un compagnon d'apprentissage, parfois même un réflexe. Une génération entière grandit avec cet outil, ce qui pose de nouvelles questions sur la manière d'apprendre, de comprendre et de développer son autonomie. Alors une question se pose, à quoi ressemblera l'école de demain? On sait déjà que les cours à distance sont possibles, mais les innovations ne s'arrêtent pas là. La réalité virtuelle, par exemple, ouvre des perspectives fascinantes. La DRAN, la Direction de Région Académique du Numérique pour l'Éducation, explique qu'il est déjà possible de suivre des cours grâce à des casques de réalité virtuelle. Imaginez, un élève qui, depuis son salon, se retrouve plongé dans un laboratoire de sciences, dans une reconstitution historique ou dans un environnement immersif qui stimule son engagement. Avec ces technologies, certains imaginent même un futur où les bâtiments scolaires pourraient devenir secondaires, voire disparaître. Une école sans mur, sans salle de classe, où chacun apprendrait depuis chez soi, connecté à un univers virtuel commun. Mais cette vision soulève aussi des enjeux majeurs. L'école, ce n'est pas seulement un lieu d'apprentissage, c'est un espace de vie, de socialisation, de construction personnelle. Peut-on remplacer les interactions humaines par des avatars et des environnements numériques ? Comment préserver l'égalité d'accès, l'accompagnement, la relation pédagogique ? L'avenir de l'éducation se joue à la croissance de ces questions. Ce qui est certain, c'est que le numérique continuera de transformer l'école. Reste à savoir comment nous choisirons de l'utiliser, comme un outil au service de l'humain ou comme un nouveau modèle qui redéfinira entièrement notre rapport à l'apprentissage.
Est-ce que vous avez envie de réagir sur cette chronique ?
Moi, je réagirais en disant que les nouvelles technologies sont des facilitateurs d'apprentissage, mais que ça ne peut pas remplacer les échanges, le débat, l'interaction et la proximité et les liens qu'on peut nouer.
Eh bien, c'est parfait tout ça. Nous allons faire une petite pause musicale et puis nous reviendrons pour la dernière partie de notre émission. À tout de suite. Nous revoilà en direct pour parler du sport et d'Erasmus. Avec nous, cette fois-ci, Priscilla Richard, enseignante en langue en anglais. Bonjour.
Bonjour.
Emma Abdelkrim, enseignante en langue en espagnol. Bonjour.
Bonjour.
Arnaud Roufiac, professeur de PS. Bonjour.
Bonjour.
Nous sommes également avec Mélina qui s'interroge sur le sport dans le lycée. Bonjour Mélina.
Bonjour Lénie. Bonjour à tous, nous avons la chance d'être avec Arnaud, professeur de PS qui accompagne nos élèves dans les activités sportives au lycée. Aujourd'hui, il va nous parler de son parcours, de sa vision du sport et de la prochaine compétition de handball. Quelles sont les différentes options sportives accessibles aux élèves aujourd'hui ?
Alors, les différentes options sportives accessibles aux élèves, je pense que déjà, il faut séparer deux choses, même trois on va dire. Donc au lycée, il y a ce qu'on appelle l'éducation physique et sportive, dite d'enseignement obligatoire. Il y a ensuite les options et il y a ensuite les sections sportives. Voilà, donc au niveau des options, en fait, on se différencie un petit peu peut-être des autres établissements, c'est qu'on propose plusieurs options. Une qui est plutôt orientée sur les sports collectifs et une plutôt orientée sur les activités de pleine nature. Le fait de pouvoir proposer ça, c'est qu'au sein de l'établissement, on a l'avantage d'avoir des enseignants de PS qui sont en fait spécialisés dans différentes disciplines, les sports co et les activités physiques de pleine nature. Voilà, donc ça ouvre un petit peu le champ. Et ensuite, on a les sections sportives, où là par contre, on est plutôt sur à la fois de l'apprentissage, de la découverte, mais surtout de la compétition. Et là, on est axé plutôt sur section sportive handball chez les garçons et chez les filles, et section sportive futsal. Voilà.
Et au niveau du matériel, c'est pas trop compliqué, par exemple pour l'option pleine nature?
Alors pour le matériel, effectivement, c'est pas forcément très simple. Les activités de pleine nature demandent forcément un contrôle de matériel qui ne se fera pas forcément sur les activités foot avec les ballons. Puisque, par exemple, sur l'escalade, hein, il faut faire tout ce qui est contrôle de pays, c'est obligatoire, c'est-à-dire contrôler ses baudriers, ses dégaines, ses cordes. Voilà, il faut contenir et maîtriser en fait un cahier des charges et un cahier. Pour le vélo, c'est pareil, il faut contrôler son matériel, ses vélos, les freinages, voilà, tout ce qui est sécurité, bien évidemment. C'est pas simple. La gestion du matériel dans les activités de pleine nature est loin d'être simple.
Et est-ce qu'il y a une option qui intéresse plus les élèves que les autres ?
En fait, de base, le lycée Notre-Dame est plutôt orienté sur les sports collectifs. Ça, c'est ancré depuis déjà pas mal d'années, puisque la section sportive handball existe depuis pas mal de temps maintenant. Mais la tendance, est, je ne dis pas que la tendance est inverse, mais les élèves de plus en plus s'orientent aussi vers les activités de pleine nature. Mais c'est aussi la façon dont on l'amène, voilà, qui va faire en sorte que les élèves vont être intéressés. Il faut aller, de toute façon, aller chercher les élèves, il faut que ça leur plaise. Et quand ça leur plaît, eh bien, ils restent et puis ils continuent. Et l'idée, c'est aussi de créer chez eux voilà, cette envie de poursuivre l'activité sportive au-delà de l'école, au-delà du lycée et dans la vie future surtout.
Et comment ces options sont-elles valorisées dans le dossier scolaire des élèves? Est-ce un vrai plus sur Parcoursup?
Oui, complètement. En fait, les options sont intégrées complètement en fait, sur le bulletin scolaire. Elles sont avec des coefficients, bien évidemment. Elles sont notées et donc participent complètement en fait, au résultat des élèves.
Si vous aviez un seul argument pour convaincre un élève de seconde d'intégrer une option sport à la rentrée, ce serait lequel?
C'est surtout en fait, de venir partager un moment de découverte d'une activité sportive ou de plusieurs activités sportives. Qu'il n'aurait pas la chance de pouvoir faire chez lui ou en dehors. Voilà. Et si c'est quelqu'un en plus de ça qui a un projet dans l'activité sportive, que ce soit dans de l'enseignement, que ce soit sur éducateur sportif type BPJEPS, mais que ce soit aussi, pourquoi pas, sur de la kinésithérapie, sur de l'ostéopathie, pourquoi pas, voilà, de venir intégrer ces options, puisque au-delà de la pratique sportive dans les options, il y a aussi du contenu théorique et qui va leur servir forcément s'ils ont des poursuites d'études, par exemple en STAPS, voilà.
Pouvez-vous nous présenter la compétition de handball qui a lieu en ce moment même dans notre lycée?
Alors en ce moment même, effectivement, il y a une grosse compétition de handball qui est organisée. Cette compétition, elle est organisée par Luxel Lozère, exactement. Luxel, c'est l'organisme, c'est une association qui s'occupe de la gestion en fait de toutes les activités sportives scolaire dans le cadre de l'AS, au même titre que l'UNSS en fait dans le public. Et effectivement, cette semaine, sur ces trois jours, donc depuis hier jusqu'à demain, elle organise les championnats de France de handball, élite garçons et élite filles, chez les cadets et les juniors. Ça représente 16 équipes au total, donc 8 équipes chez les filles et 8 équipes chez les garçons, dispatchées sur 4 gymnases mandois. Et donc depuis ce matin, en fait, voilà, il y a eu des tirages au sort qui ont été faits hier soir. Et depuis ce matin, ils s'affrontent donc dans les gymnases. Il y a les quarts de finale tout à l'heure entre 16h et 18h. Et les phases finales qui seront faites demain matin avec les matchs de classement. Voilà. Ça fait la deuxième fois consécutive qu'on l'organise, puisqu'on l'a aussi organisé l'année dernière. Voilà. Et puis pour terminer également, enfin pour terminer sur la question, enfin prolonger surtout, on organise également dans un mois et demi, les championnats de France de course d'orientation.
Ok. Et depuis quand vous préparez cette compétition ?
Depuis quand on la prépare, en fait, c'est un travail de toute l'année. Voilà. Puisque il faut mobiliser, en fait, tous les partenaires, que ce soit la communauté de communes, les mairies, que ce soit aussi le self pour les repas, que ce soit les villages de vacances pour les hébergements, que ce soit les transporteurs pour les navettes, que ce soit la communauté de communes, la mairie pour toutes les installations sportives. Donc voilà, ça demande en fait une organisation qui se fait sur l'année. Alors je ne cache pas qu'effectivement, vu que l'année dernière on l'a fait, que on va dire de façon un peu régulière, chaque année on organise un championnat qui n'est pas forcément que du handball. Hein. Ben voilà, on prend des méthodes de travail et puis on a une équipe EPS sur le département qui est superbe en fait et qui est très engagée dans l'organisation. Et je peux compter, Luxel Lozère peut compter sur l'ensemble des enseignants du département pour que ça fonctionne. Voilà. Et je les en remercie bien évidemment.
On sent votre passion, merci beaucoup d'être venu nous en parler en direct.
Merci beaucoup.
Nous sommes également avec Daniela qui s'interroge sur Erasmus. Bonjour Daniela.
Bonjour Léni, bonjour à tous.
Avant de te laisser la parole, afin de poser des questions à nos invités, on va écouter une interview téléphonique de Nathalie Destre, qui est à l'origine de la certification d'Erasmus+, dans le lycée.
Bonjour à tous, nous vous avons la chance d'être avec Nathalie Destre, professeure d'espagnol et créatrice du programme Erasmus au lycée Notre-Dame-Mende. Elle va nous parler de son parcours et de l'impact formidable de ce projet de ses élèves. Pour commencer, pouvez-vous nous raconter ce qui vous a donné envie d'enseigner l'espagnol et de mettre en place ce projet Erasmus ?
Alors, enseigner l'espagnol depuis toute petite, hein, c'est une passion pour les langues étrangères que j'ai, autant pour l'espagnol que pour l'anglais d'ailleurs. Donc, j'ai fait des études de langue à l'université, d'anglais et d'espagnol. Et puis, je suis partie moi-même étudiante en Erasmus. J'ai gardé une expérience, un souvenir de cette expérience vraiment fabuleux. Et j'ai eu envie de faire partager ça à mes étudiants aujourd'hui, donc en 2017. Lorsque je suis arrivée au lycée Notre-Dame, nous avons mis en place tout le protocole nécessaire et fait les dossiers que j'ai remplis pour avoir l'agrément. Et depuis, nous sommes lauréats de la charte européenne au lycée Notre-Dame.
Ok, super. Et vous pouvez nous dire avec quel pays le lycée a des partenariats ?
Alors effectivement, nous avons un partenariat particulièrement fort avec nos amis espagnols. Du lycée Serra Llarga à Blanes, à peu près à une heure au nord de Barcelone, depuis plusieurs années maintenant. Et du coup, ce partenaire nous aide dans nos mobilités parce que nous envoyons nos élèves donc en stage, les étudiants plutôt, en stage pendant 2 mois. Et certains vont souvent en Espagne grâce à nos partenaires qui nous trouvent des adresses de stage. Et nous, en retour, on trouve des adresses de stage pour leurs étudiants amende dans les entreprises, ce qui crée aussi un dynamisme local. Et pour les pays dans lesquels nous avons envoyé les étudiants, ben certains sont partis au Luxembourg, en Belgique, en Irlande, donc en Espagne très régulièrement, au Vietnam. Et cette année, nous avons un étudiant qui est parti au Mexique. Voilà.
Et est-ce qu'il y a eu des pays où la mobilité n'a pas été possible ?
Alors, il y a certains pays, effectivement, qui ne sont pas partenaires de l'Europe. Hein, donc, normalement, les projets Erasmus sont focalisés sur les pays européens. Jusqu'à présent, avec le Brexit, il n'était plus possible d'aller en Angleterre, par exemple. Aujourd'hui, il y a des partenariats avec les pays qui sont, des possibilités de mobilité avec des pays non partenaires européens. C'est ce qui fait que nos étudiants peuvent partir au Vietnam et au Mexique. Sinon, jusque-là, chaque fois que les étudiants demandaient des mobilités, elles ont été possibles et réalisables.
Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste exactement le programme Erasmus+ ?
Eh bien, en fait, le programme Erasmus+, chacun bâtit sa charte européenne sur des critères très particuliers de l'Europe. Nous, par exemple, au lycée Notre-Dame, on a décidé de développer pour être vraiment en adéquation avec les exigences européennes, une politique linguistique forte sur l'établissement. C'est pour cela qu'en post-bac, il y a de façon un peu exceptionnelle, hein, 2 langues proposées aux étudiants, l'anglais et l'espagnol, en LV1, LV2, puisque de toute façon, quand on maîtrise 2 langues, on peut partir partout à l'étranger, on peut être à l'aise, c'est le but. Et puis, l'autre pilier fondamental, c'est la transition numérique, avec la proposition de stage en entreprise, hein, notamment dans le digital pour les étudiants NDRC et COM. Et puis, le troisième pilier aussi fondamental, c'est l'inclusion scolaire. C'est pour ça que nous recevons en stage de jeunes Espagnols autistes, hein, dans le cadre d'un programme un peu avant-gardiste au niveau de la Catalogne, en Espagne. Et nous les recevons chaque année. Bon, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a des mobilités de professeurs. Et ça, c'est très important parce que ça rend l'enseignement au niveau de notre post-bac dynamique, moderne et très ouvert sur l'Europe. Et nos professeurs, les professeurs partent régulièrement, chaque année, les professeurs partent aussi en stage d'observation et reviennent avec des compétences très enrichies au niveau de la pédagogie, de la didactique.
Pouvez-vous nous expliquer comment sont choisis les participants ?
Alors, c'est sur la base du volontariat. Hein. Parfois, il faut un peu bouger les étudiants qui sont un peu rétifs, qui n'osent pas partir. Mais en général, lorsque leurs camarades témoignent de leur expérience, hein, de mobilité, ça suscite des engouements, des motivations. Et puis, quand ils reviennent, vraiment, ils sont souvent très contents de leur expérience. Ils ont pu enrichir leur expérience personnelle, professionnelle, linguistique. Et pour l'instant, nous n'avons pas eu à faire de critères de sélection, ce qui se passe dans certains établissements. Hein. Ça s'est toujours passé sur la motivation de chacun.
Et sur le lycée lui-même, quel impact a eu Erasmus+ ?
Bien, l'impact, c'est une ouverture, hein, une visibilité sur l'Europe, puisque nous avons l'onglet Erasmus sur le site du lycée. C'est-à-dire que n'importe quel étudiant européen qui souhaite venir faire une formation de BTS, en tout cas post-bac sur l'établissement, peut le faire. C'est une visibilité auprès de chez nos partenaires également, qui eux-mêmes mettent le lycée Notre-Dame sur leur site internet. Donc c'est toujours dans une volonté de dynamique et d'ouverture à la fois européenne et internationale. Ça a vraiment une visibilité assez importante. Et puis aussi, nous sommes au même niveau finalement que des grandes classes prépa ou des grandes universités. Hein. Nous avons la même place au niveau européen.
Quels sont vos projets futurs pour Erasmus+ ?
Alors les projets futurs, bien c'est toujours de demander des bourses, puisque ce que j'ai oublié de dire quand même, c'est que nos étudiants partent avec des bourses. Donc chaque année, je fais une demande de bourse pour que les mobilités puissent se réaliser. Et l'avantage quand même incontestable, c'est que tous les étudiants qui partent en mobilité européenne vont avoir un autre petit diplôme qui s'appelle l'Europass, qui va venir s'ajouter à leur BTS, qui va venir donner une couleur Europe à leur BTS. C'est un véritable label de qualité européen et fortement apprécié par les entreprises au moment de l'emploi et pour la poursuite des études. C'est-à-dire que si nos étudiants veulent continuer dans un autre pays européen, avec ce label-là, ils peuvent poursuivre des études partout en Europe. Au niveau des projets actuellement, nous avons le projet de poursuivre notre partenariat actuel avec nos amis de Blanes, bien sûr, et de rechercher toujours de nouveaux partenaires, de nouvelles entreprises à l'étranger. Au niveau du, par exemple, j'ai deux collègues qui sont en train de faire des démarches pour partir en stage d'observation au Québec, dans une université au Canada. Voilà, c'est vraiment un projet hein, pour le moment. L'autre projet est de partir, ma collègue d'anglais va partir faire un stage d'observation dans un établissement irlandais, avec peut-être l'intention en tout cas de préparer, pourquoi pas, un partenariat à l'identique de celui que nous avons pour l'Espagne.
Quels conseils donneriez-vous aux enseignants ou élèves qui voudraient créer un projet similaire ?
Alors, beaucoup de patience. Enfin, pour les enseignants, si c'est pour la création de projets, évidemment, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Les résultats sont là. Et pour les étudiants qui veulent partir, eh bien, qu'ils n'hésitent pas. C'est vraiment une expérience formidable, je crois, qu'on garde à vie. Avec des relations qui se créent, des réseaux qui se créent à tous les niveaux, comme je disais tout à l'heure, au niveau professionnel, personnel. Donc vraiment, le conseil que je donne, si si ils ont envie de partir, il est toujours possible de trouver les moyens de partir et d'aller à la découverte du monde.
Merci beaucoup Nathalie d'avoir partagé votre parcours et votre passion pour Erasmus+. Votre projet montre à quel point l'ouverture sur l'Europe et les langues peut transformer la vie des élèves et du lycée. Nous espérons que cela inspirera d'autres projets et d'autres rêves.
Eh bien, je vous remercie à tous.
Merci Mélina pour cette interview. Daniela, je te laisse la parole.
Bonjour à tous. Emma Abdelkrim, depuis quand êtes-vous impliquée dans le projet Erasmus+ au sein du lycée ?
Alors, étant donné que c'est ma première année dans l'enseignement, cette année, c'était la toute première fois que je m'impliquais dans ce projet.
Et vous, Priscilla Richard, vous êtes arrivée dans le projet à quel moment ?
Alors, pour ma part, ça fait une quinzaine d'années que je suis sur l'établissement, mais l'année dernière, j'ai intégré les post-bac. J'ai vu le projet un petit peu de loin et c'est seulement cette année, à la rentrée 2025, que je me suis impliquée dans le projet. Avec pour objectif de développer des partenariats vers les pays anglophones.
Emma, vous êtes déjà partie en Espagne dans le cadre d'Erasmus. Concrètement, comment avez-vous vécu cette expérience ?
Alors, globalement, c'était une expérience très enrichissante. J'ai eu la chance de pouvoir partir avec une collègue qui travaille sur des matières un petit peu plus professionnelles et qui a un petit peu mené la barque. Et ça m'a permis de découvrir comment fonctionnait Erasmus et... Le fait qu'elle soit avec moi, c'était vraiment quelque chose de rassurant. Et au final, mon rôle, on va dire, dans cette histoire aura plus été de faire le médiateur linguistique entre les deux établissements et entre les différents tuteurs.
Et quel était l'objectif de votre séjour, du coup ?
Alors, sur ce séjour, l'objectif principal, c'était de faire le suivi de stage de nos étudiants et aussi de pouvoir observer différentes méthodes de travail à l'étranger.
D'accord. Et qu'est-ce qui vous a le plus marqué ?
Ce qui m'a le plus marqué, on va dire que c'est dans un premier temps l'hospitalité, parce que quand on est arrivé, ça s'est tout de suite super bien passé, on a été très bien accueillis. Et ce qui m'a aussi impressionné, c'est le travail assez important de préparation en avant, de logistique, de collaboration, que ce soit entre les deux établissements, les tuteurs et les étudiants. Et tout ce beau monde, finalement, a réussi à monter tout ce projet, et c'est assez impressionnant quand c'est la première fois qu'on y participe.
Et de votre côté, Priscilla, vous allez bientôt partir en Irlande. Comment préparez-vous ce séjour ?
Alors oui, effectivement, j'ai la chance de partir en mobilité là, du 14 au 19 avril prochain, donc à Portlaoise en Irlande. J'ai eu en fait en début d'année le contact par une collègue irlandaise. Et c'est un travail en fait qui s'est fait tout au long de l'année, donc avec des échanges de mails, des visioconférences pour connaître un petit peu le partenaire. Et puis récemment, il a été important de signer une convention avec les différents établissements. Et donc nous avons décidé de ces dates prochaines, du 14 au 19 avril. Et là, l'idée, c'est de mettre en collaboration les professeurs de professionnels, d'impliquer aussi les étudiants qui pourraient partir, puisque mon objectif est d'établir un partenariat, la recherche de lieux de stage pour les étudiants.
D'accord. Et c'était également pour un échange pédagogique ?
Alors oui, je vais avoir la chance d'observer des classes de langue ou des classes de matières professionnelles sur l'établissement irlandais. Mais mon idée aussi est de pouvoir trouver des professeurs là-bas qui pourraient, avec qui je pourrais travailler et pouvoir proposer des sujets concrets à mes étudiants.
Selon vous, qu'est-ce que le programme Erasmus vous apporte à vous en tant qu'enseignante, mais aussi à vos élèves ?
Alors, pour les enseignants, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir découvrir d'autres pratiques pédagogiques et une autre culture par la même occasion, mais aussi peut-être de pouvoir trouver d'autres partenaires à l'étranger. Et pour les élèves, bon, c'est assez classique, mais bon, sur le plan culturel, il y a l'apprentissage de la langue, la découverte d'une autre culture. Et il y a en fait aussi l'idée de pouvoir concrétiser un petit peu tous les enseignements qu'ils ont en France et de pouvoir les mettre en pratique à l'étranger avec le stage, puisque tout va se concrétiser. Et quelque part, c'est une ouverture vers le monde, c'est aussi l'idée de se découvrir soi-même. Et finalement, quelque part, ça demande un peu de résilience de la part des étudiants.
Est-ce que vous avez une anecdote concernant un élève en particulier, un moment qui illustre concrètement cet impact ?
Oui, oui, oui. On a un étudiant sur lequel on n'aurait pas du tout parié au départ, qui a quand même réussi à s'organiser tout seul son stage au Mexique. Et il a surpris tout le monde. Voilà, donc lui qui n'était pas le plus organisé des étudiants, a réussi quand même à se trouver un stage, un logement. En fait, il s'est organisé tout seul là-bas. On l'a accompagné, bien évidemment. Mais voilà, il est rentré bilingue et maintenant, il attend qu'une chose, c'est de repartir cette fois-ci dans un pays anglophone pour justement améliorer son niveau en anglais cette fois-ci.
Ils partent combien de temps en général ?
Alors, normalement, un stage donc, pour un étudiant post-bac, c'est 7 semaines. Mais quand on part sur Erasmus, c'est 8 semaines minimum.
Et comment se passe le suivi des élèves sur place pendant leur séjour ?
Alors, je vais laisser plutôt Madame Abdelkrim en parler puisqu'elle l'a réalisé. Moi, pour l'instant, c'est que du projet. Donc, pour l'instant, je n'ai pas fait de suivi.
Alors, globalement, quand on arrive sur place, il y a tout l'accueil avec les autres enseignants, la direction, etc. On a droit à une visite de l'établissement. Derrière, il y a plusieurs échanges au niveau de l'organisation, puisque les temps d'Erasmus se divisent entre les suivis de stage, les temps d'observation des cours divers et variés. On choisit un petit peu ce qui nous intéresse, sans oublier les moments aussi où on va pouvoir badrouiller un petit peu, découvrir la culture. Et à la fin, le bilan qu'on va faire avec nos étudiants pour savoir voilà, qu'est-ce qu'ils ont validé comme compétences, voir un petit peu où ils en sont, avant de repartir en France.
Est-ce que l'inscription est payante pour Erasmus ?
Alors non, l'inscription n'est pas payante, elle est basée sur la motivation. Donc la motivation des étudiants, ils doivent trouver leur stage, ils doivent s'organiser le plus possible, monter un dossier, etc. Et donc c'est à celui qui aura préparé son dossier en premier et qui aura le dossier le plus béton, on va dire, qui aura la chance de partir. Et pour les enseignants, il en va de même, il faut se manifester assez rapidement pour avoir la possibilité d'avoir une mobilité. Et après, si on parle vraiment de l'aspect financier, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a plusieurs bourses qui peuvent financer une partie du voyage, donc tout ce qui est trajet et par exemple logement, enfin hébergement, etc. Donc ce qu'il y a comme bourse, on a la bourse Erasmus+, mais on a aussi des bourses de la région, par exemple. Et donc ces bourses-là permettent voilà, de financer une partie, mais pas... Après, naturellement, quand on s'en va sur plusieurs mois, on se doute bien qu'à un moment donné, les sous sortent aussi de notre poche.
Est-ce qu'il existe différents types de mobilité dans Erasmus+, par exemple des stages, des échanges scolaires, etc. ?
Alors oui, sur Erasmus+, il y a différentes mobilités. Donc comme on vient de parler, il y a les mobilités, bien évidemment, étudiantes, donc, où les étudiants partent sur plusieurs semaines en stage. On a des mobilités donc, pour les personnels, donc ce sont des mobilités de job shadowing, donc d'observation de cours et de pratiques pédagogiques ou de formation. Et puis on a aussi, mais c'est plus sur le collège ou le lycée, on a des mobilités donc, d'échanges scolaires.
Pour donner une idée concrète aux auditeurs, combien d'élèves sont partis en Espagne cette année ?
Alors, cette année, nous avons eu 3 mobilités en Espagne, sur Blanes. Et on a eu un étudiant, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est parti hors Union européenne, donc au Mexique. Ce qui fait que, pour le moment, nous possédons 4 mobilités étudiantes.
D'accord. Et de votre côté, Priscilla Richard, avez-vous déjà eu une idée du nombre d'élèves qui souhaitent partir en Irlande ?
Alors, j'en ai parlé donc à mes étudiants en BTS Com et en BTS NDRC. Pour l'instant, ça reste un petit peu vague. J'ai vu des yeux briller quand j'ai annoncé la nouvelle. Je pense qu'il y a 2-3 étudiants qui ont envie de partir en Irlande. Après, j'ai un étudiant aussi qui m'a parlé des pays nordiques. Donc, ça sera l'objectif de l'année prochaine, ouvrir d'autres partenariats dans d'autres pays étrangers. L'intérêt, en fait, c'est qu'on puisse accompagner les étudiants dans leurs projets pour qu'ils puissent réaliser leur mobilité avec ou sans partenariat, mais qu'ils s'ouvrent au monde.
Est-ce que vous aussi accueillez les élèves étrangers en Erasmus+, ici, en France ?
Alors oui, on a accueilli 4 étudiants donc, qui venaient de notre partenariat de Blanes. Donc c'était 4 étudiants qui étudiaient la vente, la communication ou qui étaient aussi dans l'administratif. Donc ils ont été placés dans des entreprises mandoises. On a de ce fait aussi accueilli 2 délégations de 2 profs espagnols. Donc au début et à la fin des stages des étudiants. Et puis Madame Abdelkrim les a accueillis aussi sur ces cours. Donc je vais vous laisser la parole.
Oui, alors c'était un avantage d'avoir quand même des étudiants espagnols qui venaient en France. Donc j'en ai profité pour pouvoir les faire intervenir sur mes heures de cours avec mes classes de première et mes classes de BTS première année, afin justement de créer quelques liens. Et l'objectif aussi était de présenter le projet Erasmus aux plus jeunes afin de leur donner envie aussi de partir plus tard.
Pour finir, qu'est-ce que vous diriez à un élève ou à un personnel qui hésite encore à se lancer dans Erasmus+ ?
Alors pour ma part, je leur dirais que c'est une super aventure, qu'il ne faut pas hésiter. Et puis je pourrais leur dire « don't be afraid, just go ».
Et moi je rajouterais que « es una experiencia que te cambia la vida para siempre ». Alors il faut le faire.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci à vous. Tout à l'heure, nous avions parlé de l'option sport, et justement, Gabi s'est intéressée aux options, disons, un peu plus originales, voire insolites, qu'on pourrait imaginer dans le futur.
Oui, bonjour Léni. Aujourd'hui, on va parler des options un peu atypiques qui pourraient être mises en place dans les 100 prochaines années au lycée Notre-Dame-Amande. Et si, par exemple, on laissait le choix aux élèves de pratiquer des activités propres à certaines régions, comme la Bretagne avec la lutte bretonne, ou encore Lyon avec les boules lyonnaises, ou même encore, pourquoi pas, la pelote basque sur une planche de surf. Dans le lycée, on pourrait imaginer des activités comme le parapente ou encore des cours de canoë. Tout ça pour dire que développer des options insolites, qu'elles soient sportives ou non, pourrait vraiment être un plus. Ça permettrait aux élèves de développer leur créativité, leur culture. Et ça leur permettra... Ça pourrait être très bénéfique. Alors, est-ce que vous seriez prêt à mettre en place ça dans votre établissement ? Parce qu'au lycée, il existe déjà quelques options comme le VTT, le ski de fond ou encore le trail. Mais pourquoi pas en ajouter davantage comme tout le monde puisse en profiter, élève comme professeur ? On pourrait aussi s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, par exemple au Danemark. Ils développent l'empathie chez les élèves. En Afrique du Sud, certains apprennent les maths comme en mode flow hip-hop. On pourrait aussi proposer de nouvelles langues, en plus de l'anglais et de l'espagnol, comme le russe ou le japonais. Et pourquoi pas des options plus ludiques, plus amusantes, mais aussi intéressantes pour les élèves. Et si on leur laissait tout simplement le choix des options qu'ils veulent suivre pour leur redonner envie d'apprendre. Aux Pays-Bas, par exemple, il existe des écoles sans professeurs, 100% connectées. Mais la vraie question, c'est est-ce que vous seriez prêt à ouvrir votre lycée à ce type d'options insolites ? Côté culture, on pourrait imaginer une option chant pour découvrir les musiques du monde, ou encore des cours de culture générale sous forme de jeux, de quiz. Quelque chose de plus interactif. C'est vrai que savoir exactement ce que veulent les élèves n'est pas toujours simple, mais leur proposer des options différentes, originales, ça pourrait vraiment faire la différence. Les élèves auraient peut-être plus envie de venir dans un établissement qui propose des activités qu'ils ne trouveraient pas ailleurs dans le département. Et puis avec un internat, ça permettrait aux élèves qui n'habitent pas à Mende de rester sur place et de profiter pleinement de toutes ces options.
Merci de nous avoir écoutés. On vous attend nombreux le 11 avril pour fêter nos 100 ans. Belle journée à l'écoute de 48 FM.